Voilà, bonsoir, bonjour, bonsoir. Sur le seuil de la Semaine Sainte qui commence ce soir et dans la continuité de la prière avec la Vierge Marie qui nous apprend à suivre Jésus au plus près possible, je voudrais tout simplement ce soir reprendre les récits de la Passion dans l'Évangile selon saint Marc. Comme vous le savez, pour la Passion, la messe des rameaux n'a quasiment pas d'homélie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est déjà très long. Et alors, pendant quelques dizaines de minutes maintenant, je voudrais vous proposer une lecture toute simple, avec certains éléments peut-être de contexte qui nous permettent de réfléchir et d'entrer dans cette semaine avec un peu plus de familiarité afin de nous engager au plus près à la suite de Jésus. Nous commençons par l'évangile des rameaux, mais je ne le prends pas simplement au moment où Jésus monte sur un petit âne. Je voudrais que nous rentrions dans l'esprit de saint Marc, que nous rentrions dans le contexte. Le contexte se trouve un peu en amont. Nous sommes au chapitre 10e de l'Évangile, qui en compte 16, donc c'est le début de la dernière partie. Et il y a en particulier des éléments qui sont propres à l'Évangile de saint Marc, que nous n'avons pas ni dans saint Matthieu, ni dans saint Luc, ni dans saint Jean. Et ce sont ces particularités de saint Marc sur lesquelles je voudrais que porte notre attention. Je vous donne donc un premier exemple, donc uniquement chez saint Marc, telle est l'ambiance autour de Jésus au moment où il arrive à Jérusalem. Vous êtes assis, écoutez bien. Ils sont sur le chemin qui monte à Jérusalem, et en tête, Jésus. Ils sont effrayés et ceux qui suivent craignent. Vous voyez l'ambiance? Oui, c'est redoutable. Jésus n'a pas été à Jérusalem pris au piège. Il affronte une situation dramatique et ceux qui sont avec lui, même s'ils ne comprennent pas très bien ce qui va se passer, partage cette panique. Voilà, il est toujours intéressant de bien recevoir les évangiles, notamment mais depuis le début, en toute réalité, dans l'esprit dans lequel ils ont été vécus, aussi bien par le Seigneur que par ceux qu'il a choisis pour aller avec lui. Et on peut penser que le groupe des autres disciples, on peut penser à Marie, bien entendu, qui monte à Jérusalem avec son fils, doit partager elle-même, mais avec cette grâce qui lui est particulière, elle doit partager ce sentiment de danger dont Jésus est bien conscient. Ils sont effrayés et ceux qui le suivent craignent. Et Jésus, dans ces conditions, va leur dire, voyez, il y a même cette idée, il commence à leur dire parce que on ne s'y fait jamais, c'est pourtant ce qu'on appelle la troisième annonce de la Passion et de la Résurrection, mais saint Marc a bien le souci de noter, il commence à leur dire ce qui va lui arriver. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré aux grands prêtres, aux scribes, ils vont le condamner à mort, le livrer aux païens, le bafouer, cracher sur lui, le fouetter, le tuer, et après 3 jours, il se lèvera. Et en même temps, comment Jésus se présente comme le bon pasteur, nous relisons tout doucement ce qui est écrit. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré. Et nous entendons bien la différence qu'il y a entre ce qui arrive à l'ensemble. Nous montons à Jérusalem, tout le monde est invité à monter à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré. Ce n'est pas « nous serons livrés », le Fils de l'homme sera livré. Vous voyez ce partage entre le groupe dans sa totalité et le sort de Jésus lui-même. Jésus est vraiment celui qui prend l'initiative d'apporter quelque chose de nouveau et de décisif en faveur du salut du monde. Jésus est livré, c'est un mot en même temps qui est important, vous voyez, qui a au moins trois sujets actifs dans la livraison, trois sujets qu'il faut bien pouvoir méditer pendant cette semaine. Par exemple, Jésus se donne lui-même, c'est le verbe qu'on traduit par se livrer, c'est le verbe se donner, c'est un verbe très banal en grec ou en français. Jésus se donne. Deuxième possibilité, le Père donne son Fils. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous avons ça plusieurs fois dans les évangiles et même chez saint Paul. Troisième possibilité, Judas va donner, mais au sens de livrer. Oui, c'est le même verbe à chaque fois, mais selon qu'on prend comme sujet Jésus, qui se donne lui-même, le Père qui donne son Fils, ou Judas qui donne Jésus, à chaque fois, ce n'est pas la même chose. Ça peut être très positif, ça peut être très généreux, ça peut être rempli de foi, mais ça peut être aussi rempli de méchanceté. Et il faut se demander comment on entend bien cette offrande que Jésus fait de lui-même. Au fond, à qui Jésus donne-t-il le Fils ? À nous. Saurons-nous accueillir le don que Dieu le Père nous fait de son Fils bien-aimé ? Et saurons-nous ne pas faire comme Judas, à savoir donner au sens de livrer, au sens de trahir, voilà ce que malheureusement nous pouvons faire dans notre faiblesse. Et voyez que Jésus fait sa troisième annonce de la Passion dans un contexte d'effroi. Dans d'autres moments ou dans d'autres évangélistes, Jésus annonce sa Passion et sa résurrection et ça plonge tout le monde dans l'effroi. Là, en fait, ça ne les plonge pas dans la peur parce qu'ils ont déjà peur. Et ils sont dans une ambiance où ils ne sont pas du tout prêts à accueillir, malheureusement, ce que Jésus est en train de leur dire. Alors, un peu plus loin, il y a une explication qui peut nous servir afin d'entrer dans les sentiments de Jésus, mais qu'il veut aussi imprimer en nous-mêmes. Voilà ce que Jésus dit toujours au chapitre 10, verset 42. Vous savez que les soi-disant chefs des nations, les grands de ce monde, dominent en seigneur sur les autres, et les grands exercent le pouvoir de haut sur les foules. Pour vous, il n'en sera pas ainsi. On a envie de dire, ni dans la société, ni dans les familles, ni dans les relations de travail, ni dans l'Église. Vous voyez comment le monde, comment nos vies pourraient changer si nous prenions au sérieux les paroles de Jésus. Et Jésus ne donne pas simplement des conseils, c'est quasiment une promesse, vous voyez. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Ça peut vouloir dire, ne faites pas comme ça. Mais on peut le prendre aussi comme une promesse que Dieu met en œuvre et si elle ne s'accomplit pas, c'est parce que nous nous y opposons. C'est le moment de faire un peu un examen de conscience. Est-ce que vraiment nous voulons ce que Jésus veut pour nous ? Alors, ce qu'il veut pour nous, je vous le fais entendre. Quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et qui voudra parmi vous être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà, Jésus nous invite à un véritable changement dans notre manière de voir les choses. Et attention, si on se rappelle un peu le chemin que la liturgie nous a fait emprunter pour le carême, nous avions, alors c'était en écoutant aussi les conférences de carême de Notre-Dame, je me souviens, j'ai été très frappé, très marqué, mais je voudrais encore en parler un peu, de la remarque de Léon Blois. C'était la première conférence de carême qui reprenait un enseignement de saint Paul pour dire que nous voyons toutes les choses et les personnes, vous vous rappelez, comme dans un miroir. C'est-à-dire, et j'ai enfin compris, parce que je n'avais pas compris depuis très longtemps, c'est-à-dire nous voyons les choses a priori à l'envers. Si nous voulons être honnêtes, nous devons admettre que, de manière un peu spontanée, réflexe, nous préférons être servis que de servir, et nous croyons que c'est plus confortable. En réalité, c'est une tromperie. Oui, ce sentiment que nous pensons normal, et en disant « si on fait le contraire, on est un héros », en réalité, ce n'est pas ça. Quand on croit que c'est mieux d'écraser les gens, quand on croit que c'est mieux d'être servi plutôt que de servir, on est trompé, on voit les choses à l'envers. Et les véritables relations qui sont favorables, qui sont valorisantes pour nous, c'est de rendre service à quelqu'un, c'est de servir quelqu'un plutôt que de servir. Si on se rappelle bien notre existence, quand nous étions enfants, vous voyez, un enfant pense toujours à se servir. Vous lui présentez un peu de nourriture, c'est pour moi. Vous voyez. Un enfant ne partage pas de manière naturelle. Vous voyez. C'est comme ça que nous sommes construits. Et puis petit à petit, la confrontation avec autrui et l'éducation qu'on lui donne en famille, à l'école et au catéchisme, et va lui apprendre et va lui faire expérimenter. Et nous avons tous cette mémoire, mais elle peut être cachée pour des raisons un peu mystérieuses. Et nous avons découvert combien il était fructueux, comment il était apaisant de pouvoir servir plutôt que d'être servi. Je rappelle ce petit écrit dans les mémoires de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, car nous l'aimons et je l'aime aussi, dans cette basilique. Vous rappelez, elle est en train de pousser une vieille sœur grabataire dans un espèce de fauteuil roulant, branle-ballant. Et puis elle entend dans la rue, à Lisieux, elle entend les bruits d'une fête, un peu de musique, et puis des voix très lointaines, et puis des rires, et des jeunes filles, elle imagine, de son âge, qui sont en train de faire un peu les coquettes, avec de belles robes, avec un beau salon, avec une belle réception. Et à un petit moment, elle se dit, tiens, je pourrais, à 20 ans, je pourrais être à faire ce que font toutes ces jeunes filles. Et tout à coup, alors qu'elle pousse la vieille sœur qui boude, qui râle, qui crache partout, et elle sent de la part de Dieu, elle sent une paix immense, et elle se sent vraiment à sa place, en train de servir cette vieille sœur, plutôt que de se faire servir dans les salons des confiseries et des boissons. Et cette expérience, nous l'entendons racontée tout simplement par Sainte Thérèse, mais l'intérêt, ce n'est pas simplement de dire « Sainte Thérèse a vécu ça », c'est de se demander comment chacun d'entre nous, nous avons déjà vécu ça. Un des intérêts de la Semaine Sainte, si on continue à faire un peu retraite, marquez pourquoi pas non plus pendant le temps de Pâques, hein. Ça peut continuer, c'est d'essayer d'identifier les moments où nous avons eu conscience d'être touchés, d'être envahis par la présence de Dieu lui-même et qui nous a apporté cette paix. Et de pouvoir rendre grâce et pourquoi pas partager avec quelqu'un ces moments de grâce, parce que c'est quand on les raconte à quelqu'un que l'on prend généralement bien conscience de ce qui s'est passé. Comme quoi, ce qui est central dans notre tradition chrétienne, à savoir la dimension verticale avec Dieu et la dimension horizontale avec le prochain, vont bien ensemble. Aimer Dieu et aimer son prochain, voilà les grands commandements, voilà l'unique commandement, le second est semblable au premier. Continuons pour entrer dans ce chemin avant d'arriver au mont des Oliviers et à descendre la pente sur un petit âne. Et ils arrivent à Jéricho et là c'est la rencontre avec un aveugle. Nous avons évoqué pendant ce carême la question des miracles. Jésus fait des miracles, mais les maladies ont toutes une valeur physique et aussi une valeur symbolique. Les aveugles symbolisent ceux qui ne croient pas, ils n'arrivent pas à croire, n'arrivent pas à saisir combien Dieu existe et fait alliance avec nous. Alors Jésus, avant de continuer son chemin vers Jérusalem, où l'attend la passion et la résurrection, Jésus va guérir cet aveugle. Voyez, il est au bord du chemin, comme très souvent, soit physiquement, soit spirituellement, nous nous sentons au bord du chemin. On est, comme on dit de manière familière, on est un peu largué. On ne suit plus. On lâche. On n'avance plus. Ou alors on ne veut plus avancer. Et Jésus va remettre cet aveugle, il s'appelle Bartimée. Il a un nom, ce qui nous permet aussi de sentir que ce n'est pas une... C'est pas un mythe, c'est une véritable rencontre. Et il appelle Jésus, qui passe, « Fils de David, aie pitié de moi ». On a dû le renseigner sur qui venait. « Fils de David », c'est un titre important parce que c'est un titre royal. Nous allons le retrouver dans l'évangile des rameaux. Mais de quelle royauté s'agit-il ? Retenons que le roi David dit quelque chose d'important sur cette fonction. On le fait taire. On le fait taire parce que c'est un titre qui peut être compris de manière purement politique, ce dont Jésus ne veut pas. Mais comme Jésus est à quelques jours simplement de manifester sa véritable royauté sur la croix, car sa couronne sera une couronne d'épines, et le don qu'il accordera pour gouverner, c'est le don de la paix et du pardon, Jésus accepte qu'on l'appelle fils de David. Et confiance, dresse-toi, il t'appelle. Dresse-toi, on entend tout de suite l'image de la résurrection. Il s'agit d'anticiper la totale de ce que Jésus veut vivre et nous faire vivre. Et donc il demande au Christ, Rabouni, maître, fais que je vois, que je vois au deuxième degré, pas simplement au premier, mais que je vois en profondeur. Va, dit Jésus, ta foi t'a sauvé. Alors il voit de nouveau, et tel est le résultat de cette guérison, et il le suit sur le chemin. Ce n'est pas n'importe quel chemin, vous voyez, ce chemin, c'est le chemin de croix. Mais le chemin de croix, c'est le chemin de croix tel qu'il est vécu dans l'Évangile. Vous voyez, quand faut-il prendre sa croix ? Pas une fois dans sa vie, comme Jésus l'a prise une fois et a été crucifié, ce que nous célébrons le Vendredi Saint au Calvaire. Comme disent les Évangiles, et c'est Jésus qui l'a dit dans les annonces de la Passion, il faut prendre sa croix chaque jour. Ce qui veut dire que la croix ne mène pas à la mort, puisque chaque jour, il faut prendre sa croix. Donc la croix est un chemin de vie. La croix est une épreuve qui conduit, vous rappelez, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, mais c'est souvent mal traduit, en vue de la joie qui lui était promise, Jésus a affronté le calvaire et la croix. Vous rappelez, dans toutes les Bibles à peu près, c'est marqué « au lieu de la joie, il a choisi la croix ». Non, en vue de la joie, il a affronté l'épreuve du calvaire. Et ça, mes amis, qu'est-ce qu'il y a ? D'ailleurs, ça rime en français seulement, je pense. Et, quelle est l'attitude fondamentale entre la joie et la croix ? C'est la foi. Et, si on ne s'entraînait pas chaque jour, nous ne pourrions pas, le Vendredi Saint, lorsque nous dévoilons le Christ crucifié sur la croix, afin de le vénérer, par ta croix, la joie est entrée dans le monde. Il ne s'agit pas donc de justifier l'épreuve ou la souffrance en elle-même, ce sont des passages pour arriver à une autre étape, à un autre état. Et cet état, il est heureux. C'est pourquoi toutes les annonces de la Passion doivent bien être précisées, annonces de la Passion et de la résurrection. Mais dans notre langage habituel, nous parlons, y compris entre spécialistes, des annonces de la Passion. C'est un malentendu. Et du coup, on fait de la croix une sorte de but. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Il a commencé pour Jésus lui-même. Voilà, ça c'est un élément donc important. Le Bartimée, qui était aveugle, voit clair, et l'objet de sa foi, c'est que le chemin de croix mène à la vie. Et donc pas simplement la vie bienheureuse au-delà de la mort, mais la vie renouvelée dans l'ordinaire de notre temps. Toute épreuve est faite pour qualifier celui qui passe par cette épreuve. Donc il ne s'agit pas simplement de dire ça sera bien dans le monde qui vient, dans le ciel. C'est ce monde-ci qui est invité à être transformé, reconstruit par la puissance de la résurrection. Telle est la foi de Jésus, telle est la foi de Bartimée. Et alors au chapitre 11, nous avons l'évangile que nous aurons demain, même si dans la liturgie, il y a le choix entre l'évangile selon saint Marc et l'évangile selon saint Jean. Parce que saint Marc est assez proche de saint Matthieu, qu'on lisait l'année dernière. Saint Luc est un peu différent, on le verra l'année prochaine. Mais donc, on prendra une petite phrase de saint Jean qui lui est particulière, et nous verrons en quoi ça peut nous être utile pour méditer la passion, y compris selon saint Marc. Alors, je lis le texte, donc saint Marc chapitre 11. Quand ils sont proches de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples. Allez jusqu'au village et vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Marc est celui qui donne le plus de détails parce qu'il va non seulement donner l'ordre, mais il va raconter l'exécution de cet ordre. On ne va pas faire de la littérature, mais il y a plusieurs manières d'écrire et tout à coup, Marc raconte avec plein de détails. On peut raconter un épisode en le résumant, on peut le raconter en donnant tous les détails. Quand on raconte tous les détails, ce n'est pas pour satisfaire la curiosité du lecteur, c'est pour dire au lecteur, attention, ça paraît banal, mais faites bien attention à ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-il en train de nous dire ? Je répète donc l'exécution de l'ordre. Les deux disciples s'en vont, trouvent un âne attaché près d'une porte dehors sur la venelle. Ils le délient et certains de ceux qui se tiennent là disent « Qu'est-ce que vous faites à délier cet ânon ?» Et ils leur disent « Comme Jésus a dit », c'est-à-dire « Le maître en a besoin ». Et aussitôt, ils les laissent. Pourquoi ces petits détails de ce qui ressemble à une sorte de rébus, vous voyez, comme un jeu où il faut découvrir ce que signifie tel ou tel message pour aller plus loin. Ça veut dire que Jésus a tout prévu. Jésus connaît tous les détails de ce qui lui arrive. On peut même aller jusqu'à dire que c'est Jésus qui tire toutes les ficelles de ce qui va se passer. Non pas de manière miraculeuse et magique, mais avec beaucoup d'attention. Et pourquoi ? Pour bien montrer ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à donner sa vie, pour bien montrer que Jésus n'est pas simplement une victime d'un complot contre lui, ce qui, d'un certain aspect, est vrai, mais ce qui est majeur dans ce qui lui arrive, c'est l'offrande qu'il fait de lui-même, c'est sa liberté. Et cette liberté, elle est manifestée par le fait qu'il annonce ce qui va se passer. C'est ce que nous chantons d'ailleurs dans le temps de Pâques, quand nous chantons le Regina Coeli, où nous chantons Resurrexit, en latin, sicut dixit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et il faut aller à la fin des évangiles, notamment dans les apparitions de l'ange dans le tombeau, pour saisir le message de l'ange qui demande aux femmes qui viennent apporter des aromates qui reçoivent de manière surprise, évidemment, l'annonce de la résurrection. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait quand il était en Galilée. Et la vertu de la résurrection, elle s'opère lorsque nous passons par les annonces que Jésus lui-même en a faites. Car la résurrection n'est pas une sorte de fin heureuse d'un grand malheur qui était advenu. C'est un processus, c'est une révélation, c'est une manière de vivre. Ce sont des sentiments, un art, pourrait-on dire, de vivre que Jésus lui-même a opéré et qui nous invite à mettre à notre tour sur le métier. Et en ce sens, vous sentez bien que Jésus n'est pas mort à notre place, dans le sens qu'il prendrait sur lui comme un fusible, comme ça nous serions simplement protégés. Non, la manière dont Jésus affronte l'épreuve, ce que nous devons faire à peu près tous les jours, comme la manière dont Jésus affronte la mort, ce que nous ferons forcément un jour aussi, sont des itinéraires que nous devons prendre nous-mêmes. Jésus ne meurt pas à notre place en disant que nous n'aurions pas à mourir. Ce que Jésus a fait, il le fait pour que nous le fassions. Et très souvent, on met une sorte de distance entre Jésus et nous pour, au fond, se débarrasser. Il ne s'agit pas de se débarrasser. Et Jésus vient à nous pour que nous fassions comme lui. Et pas simplement dans les moments exceptionnels, mais dans la vie précisément de tous les jours. Donc c'est Jésus qui tire toutes les ficelles. Et là, pourquoi fait-il cette organisation avec un espèce de chemin de piste un peu compliqué pour trouver ce petit anon? Parce qu'il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre. Et la question qui se pose à nous, c'est comment Jésus est-il roi? Nous savons que sur la croix, il aura une couronne d'épines. Hier encore, entre 3 et 5, la couronne d'épines, tout près d'ici, est exposée. Elle le sera encore vendredi saint. Je viens que c'est de 10h jusqu'à 17h. Donc on a encore plus de temps. Donc c'est une royauté qui est bien particulière. L'image du roi est un peu compliquée dans notre histoire. Parce que les rois, les princes, les présidents, les gouvernants sont souvent très proches de la tyrannie. Donc ce n'est pas forcément très agréable d'être gouverné par des gens violents. Si Dieu règne, si Jésus règne, comment règne-t-il? Alors, nous avons des exemples, notamment dans la Bible. Rappelons-nous que les rois d'Israël n'ont jamais été à la hauteur. Même le roi David. Le roi David, il est bien roi. Son nom signifie « le bien-aimé », mais par exemple, lui qui devait construire le temple où Dieu habiterait à Jérusalem, il dit à Dieu « Je vais, Seigneur, te bâtir un temple ». Dieu dit « Non, 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 c'est pas toi. Pourquoi ? Parce que tu as été violent, tu as fait la guerre, tu as versé le sang et tu ne peux pas bâtir le temple. » Même le meilleur roi d'Israël n'est pas capable de répondre à sa vocation. Son prédécesseur, le roi Shaoul, je dis Shaoul en hébreu parce que en hébreu ça veut dire celui qui a été voulu. Vous rappelez comment la royauté a été instituée en Israël au temps du prophète et du juge Samuel? Le peuple a dit à Samuel, donne-nous un roi pour que nous soyons comme tout le monde. Israël, dans son histoire, loin de vivre le côté exceptionnel que Dieu lui réserve, a toujours cherché à être comme les autres. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui ne veut pas que les Juifs soient comme les autres. Mais puisqu'ils veulent un roi, dit Dieu à Samuel, et tu leur diras, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et ils vont avoir un roi costaud qui va prendre les armes, qui va faire la guerre, comme font tous les rois, et qui va périr à la guerre, comme tous les gens violents. Ça fait avancer le monde, ça? Pas du tout. Pas du tout. Et quand on veut faire comme les autres, en général, on fait régresser l'humanité. Et on pourrait remonter dans le livre des juges, on le lit moins que les autres, celui-là. Alors le tout premier roi, une sorte d'ersatz, s'appelle Abimélec. Gédéon, qui avait sauvé son peuple, n'avait pas voulu. On lui propose d'être roi, il dit non, 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 c'est Dieu qui sera votre roi. Alors, son fils, par contre, va usurper ce que son père a refusé, c'est-à-dire il fera un coup d'État pour prendre un pouvoir royal. C'est le premier qui se fait appeler roi en Israël. Et ce coup d'État fait qu'il va tuer ses 70 frères, enfin 69 sur 70. Gédéon avait eu beaucoup de fécondité. Voyez, bon, le chiffre est bien sûr un peu symbolique, voyez, mais le premier roi qui a régné a dû massacrer ses propres frères. Ça s'est fait très souvent dans les dynasties royales. Vous voyez que la dynastie royale, dans l'histoire des hommes, est assez pénible. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de sainteté. Nous, dans l'histoire de France, on a Saint-Louis, mais il n'y en a pas tellement qui sont canonisés. Hein. Et la plupart du temps, ce n'est pas des modèles de vertu, même dans un pays très chrétien. Voyez. Donc Jésus va faire autrement. Ce qui caractérise la royauté humaine, c'est la violence, c'est la guerre. Et imaginez comment Jésus, en allant chercher, en faisant ce chemin de piste pour aller trouver un petit âne, va complètement retourner l'image royale. Alors les ânes, surtout au Proche-Orient, c'est pas les petits ânes qu'on trouve à Paris, au jardin du Luxembourg ou au jardin d'acclimatation, hein, qui sont des tout petits ânes pour les enfants. Hein. Au Proche-Orient, ce sont des baudets, hein, ce sont des mulets, si vous voulez. Hein. Et c'est avec ça que les rois partent à la guerre. Ici, Jésus prend un petit âne sur lequel aucun homme n'est encore monté, parce qu'il est encore trop petit. On ne peut pas le charger. Et Jésus, pourtant, va se mettre dessus. Mais on peut penser qu'il ne va pas peser très lourd. Pourquoi ? Non pas que Jésus soit maigre, mais parce que ses jambes, elles sont par terre. Vous voyez ? C'est une sorte de jeu. Vous voyez ? Il monte sur un animal qui n'a rien, rien de guerrier. Jésus apporte la paix par le sang de sa croix et jamais par les armes. Rappelez-vous comme jusqu'au dernier moment de son arrestation, Pierre va encore essayer de montrer par réflexe qu'il veut montrer sa puissance en prenant une épée, remet l'épée au fourreau. Jésus a vraiment montré que la guerre n'était pas simplement une action violente, c'était une logique. D'ailleurs, et vous voyez que ce n'est pas facile de comprendre pourquoi le pape François, tout le monde a été perplexe ou furieux, et comment le pape François dit, la guerre, que ce soit en Ukraine ou en Russie, que ce soit en Israël ou chez le Hamas, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Répondre à la violence par la violence, c'est rajouter encore de la violence, c'est faire régresser l'humanité. Il faut oser quelque chose de neuf. Et Jésus s'engage de manière extrêmement personnelle, quitte à passer pour un clown, pour être ridicule, en montant sur ce tout petit âne qui, entre ses jambes, ressemble à rien. Oui, il ne lui manque plus qu'un gros nez rouge hein, sur la tête. D'ailleurs, c'est dans saint Matthieu qu'on dit que ce sont les enfants qui ont fait la fête. Et on chante une antienne en latin qui est très belle, « Pueri Hebreorum ». Pueri Hebreorum. Les enfants des Hébreux ont pris des palmes, ont pris des rameaux et ils ont fait la fête. Ils étaient enchantés de voir ce grand monsieur sur un tout petit âne. Mais eux, ils ont compris que c'était un signe de paix, qu'il fallait se convertir, qu'il fallait renoncer aux habitudes, aux réflexes, et prendre le chemin nouveau que Jésus avait fait découvrir à l'aveugle de Jéricho, à l'aveugle de Bartimée. Mais consentons-nous, mes amis, au porche de cette semaine sainte, consentons-nous, et je voudrais m'impliquer moi-même, oui, je suis un aveugle ce soir, et je veux cette semaine découvrir quelque chose d'essentiel que je n'avais pas encore compris, et que Jésus me révèle, et que Jésus me demande. Il y a un pape qui a souvent dit ça, mais on ne l'a pas beaucoup écouté, c'était le pape Benoît XVI. Et Benoît XVI, on lui taillait des croupiers en disant « Oh, c'est un savant, c'est un théologien ». Dans ses livres, quand on les regarde de près, et en particulier dans son beau livre, tout simplement sur Jésus de Nazareth, le pape Benoît, qui effectivement est bardé de diplômes, de doctorats, de tout ce qu'on veut, dit très souvent « Mon Dieu, je découvre que je n'avais pas compris. on n'a pas encore compris depuis 2000 ans que, oh, comme il faut encore travailler et suivre plus profondément ce que Jésus est en train de nous demander. En ce sens-là, mes amis, ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle que de ne pas avoir encore compris. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'avenir. Il y a encore beaucoup à comprendre. Il y a beaucoup d'énergie dans l'Évangile et en particulier dans l'Évangile de la Passion que nous allons donc réentendre dimanche avec saint Marc et vendredi avec saint Jean. Bien qu'on les ait déjà lus 50 fois peut-être ou 200 fois, il y a encore quelque chose de découvrir, à la fois de manière personnelle et de manière communautaire, de manière ecclésiale, mais aussi de manière tout simplement humaine, intelligente. Et encore une fois, quand la guerre et la violence menacent, comme elles menacent l'humanité depuis toujours, c'est le moment de dire, de penser qu'il faut se réveiller et écouter ce que Jésus est en train de faire. Donc, voyez-vous, cette espèce d'anti-arme, voyez, que représente ce petit âne, est important dans la rédaction de saint Marc, mais est important pour le développement de l'humanité elle-même. Alors Jésus, de manière très surprenante, c'est un peu comme un miracle, grâce à ses enfants qui ont vu le bon côté, voyez, de ce qu'on pouvait imaginer comme ridicule, vont dire justement « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Nous connaissons cette phrase, quand la chantons-nous ? À chaque messe, dans le Sanctus, Hosanna, Saint, 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 le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toutes les fois, mes amis, que nous chantons le Sanctus, c'est-à-dire que nous entrons dans la prière eucharistique, qui est le mémorial, l'actualisation de l'unique mort de Jésus et de sa résurrection il y a 2000 ans, nous entrons dans l'intelligence du projet de paix que Jésus met en œuvre. Alors, la plupart du temps, il faut bien dire, moi le premier, je n'y pense pas. Et, mais quand je lis qu'au rameau, lorsque Jésus inverse la logique habituelle et fait que tout le monde chante sans comprendre, historiquement, à ce moment-là, « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient », nous sommes toujours dans la même situation. Nous chantons cette bénédiction de Jésus qui vient comme prince de la paix. C'était la manière dont il était né à Noël et que Hérode n'avait pas voulu comprendre, qui a voulu massacrer les enfants et qu'il l'a fait. Nous sommes toujours dans le même problème. Allons-nous saisir ce que la liturgie nous fait chanter, donc nous fait dire, donc nous fait penser et donc par là même nous fait agir? Allons-nous vraiment devenir artisans de paix? On pourrait même dire de manière contemporaine plutôt militants pour la paix qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, par un passage à travers l'épreuve, en vue d'une joie plus grande, mais à condition de passer comme Jésus y est passé, en apportant le pardon, en étant témoin de la miséricorde et non pas de la revanche. Et quand le pape dit, ben à un moment, il faut arrêter de se battre, ça paraît fou, mais c'est la sagesse de Dieu. Alors, de quel côté sommes-nous? Et vous voyez, donc je redis humblement, naturellement, nous sommes du mauvais côté, et pour passer du bon côté, ben, faut se prendre par la main. Il faut peut-être s'entraider pour dire, t'es sûr, toi, que tu veux? Ben non, je ne suis pas très sûr. Ben oui, on hésite, on a peur, et pourtant, il faut le faire. Alors, saint Jean, vous voyez, si on prenait saint Jean, demain, peut-être, je ne sais pas ce que le père d'Augustin va prendre, moi, demain, à Saint-Germain, à 10h, je prendrai saint Jean, vous voyez, parce que saint Jean reprend ça avec un ajout, il dit, il est le seul à le dire, au moment où ça s'est fait, les apôtres n'ont rien compris. Ils étaient furieux. Leur maître faisait le clown. Eux, ils pensaient certainement faire un coup d'État. Ils pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir. Et voilà que Jésus monte sur ce petit âne et devient ridicule aux yeux des gens, même s'ils font la fête. Et alors, saint Jean complète, comme il l'avait fait au tout début de l'Évangile, quand il fut ressuscité d'entre les morts, alors ils se rappelèrent ce qu'il avait dit et ils crurent. Et la deuxième question, mes amis, qui est capitale pour cette semaine, qu'est-ce que la mémoire de la résurrection de Jésus opère en nous? Et voyez que si on veut que la résurrection change quelque chose, il faut jouer le jeu de Pâques, il faut jouer le jeu de toutes les Écritures, de toute la Semaine Sainte, étape par étape. Voyez, tout en se disant « Jésus croit dans la résurrection que Dieu va lui donner de vivre », le troisième jour de sa mort, ou trois jours après sa mort, le dimanche prochain, ou bien nous croyons que c'est un simple, une bonne nouvelle un peu vague et qui ne s'incarne pas vraiment dans la chair. Rappelons-nous ce que nous disons dans le credo et, comme dirait ma mère, la tête sur le bio, vous voyez, nous croyons, la main au feu, vous voyez, hein, je crois à la résurrection de la chair. Rappelons-nous que Jésus ressuscité reste humain. Il ne sort pas de la condition humaine. La résurrection est un perfectionnement absolu. De quoi? De notre condition humaine. On ne renaît pas comme des anges. Nous renaissons de manière humaine. Et nous l'anticipons dans la foi, l'espérance et la charité déjà aujourd'hui. Oui. Alors Jésus rentre dans le temple et alors il ne se passe rien et il n'est pas content parce que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est un psaume royal où le roi est censé venir après une belle victoire, en tout cas il se fait acclamer et dans le scénario du psaume, c'est le psaume 117, quand il entre dans le temple, alors la foule chante « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient » et le clergé aurait dû dire « Au nom du Seigneur, nous vous bénissons ». Jésus aurait dû être reconnu par les autorités d'Israël, notamment les autorités du Temple. Et les prêtres n'en ont pas voulu. Au contraire, si vous avez lu l'évangile de ce samedi, avant les rameaux, vous voyez, Anne et Caïphe, et les deux grands prêtres, après la résurrection de Lazare, disent « C'en est trop, il fait trop de merveilles, il faut s'en débarrasser ». Sinon, on n'y arrivera jamais. Et alors Jésus, je termine par là parce que le temps passe, vous voyez, Jésus va, on est au mois de mars, enfin début avril, vous voyez, Jésus regarde un figuier sur le chemin et il ne porte que des petites feuilles, comme actuellement sur les arbres, parce que ce n'était pas le temps des figues. Ben oui, le temps des figues, c'est le mois d'août, comme chez nous à peu près, même le réchauffement climatique. Et Jésus maudit le figuier. Et quand ils reviennent le lendemain, le figuier est tout desséché. Alors pourquoi Jésus a-t-il maudit un figuier, comme dit Claudel, qui ne portait pas de pommes le 15 décembre? Mais pourquoi il aurait dû en porter du fruit alors que ce n'était pas la saison? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de chronologie habituelle, mes amis. Nous ne vivons pas simplement dans l'ordinaire. Par la mort et la résurrection du Christ, il nous est donné de vivre quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, saint Paul dit « Il faut témoigner de l'Évangile à temps, ça c'est le temps des figues, et à contre-temps. » Vous voyez, quand on a l'impression que ce n'est pas le moment, qu'on ne va pas savoir dire, qu'on ne va pas nous comprendre, c'est souvent le moment de dire « Et si je laissais un peu de place à Dieu ?» Pour témoigner du mystère en lequel nous croyons, Jésus-Christ, mort, qui donne sa vie et qui est ressuscité par Dieu le troisième jour, il n'est pas assez de faire ce que nous savons faire ou de faire de notre mieux. Il faut se lancer en sachant que c'est Dieu qui nous conduit et que la puissance du Christ ressuscité est bien plus disponible que nous ne l'imaginons. Alors, dernier mot sur la passion selon saint Marc, qu'on n'aura pas lu en fait, mais donc on a encore un petit peu de temps cette semaine. Vous allez voir demain, qu'est-ce qui caractérise la passion selon saint Marc? Je donne deux notes Alors c'est pas marrant, hein. La première, c'est la version la plus triste. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de consolation. Les faits les plus horribles nous sont donnés de manière brutale. Encore une fois, pas... Et il faut jouer le jeu. Vous voyez, dans Saint Jean, dans Saint Luc, il y a beaucoup plus de consolation, d'explication. Dans Saint Marc, il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, il ne faut pas les chercher. Parce que Marc ne veut pas, pendant un temps, qu'il y en ait. Il faut se rendre... Alors, à quoi ça sert cette dureté de ce récit de Saint Marc? Ben, ça sert à prendre conscience de la gravité de la situation du monde et peut-être de nos âmes. Donc, c'est une invitation à se réveiller. Oui, la situation est grave. Ce qui se passe est souvent très dur. Et si pour nous ça ne va pas trop mal, forcément à côté de nous, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout. Il faut les prendre au sérieux. Deuxième note très curieuse. Après Gethsémani et la scène, dans Saint Marc, Jésus ne dit plus rien. À part le psaume « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus laisse les gens s'expliquer. Il n'y a pas de dialogue avec Pilate, il n'y a pas de dialogue avec les prêtres, il n'y a pas de dialogue avec les bons larrons, les mauvais larrons. Non, Jésus ne dit plus rien. Comme s'il voulait justement qu'on se débrouille. Qu'on voit un peu comment c'est sans lui, pour que le troisième jour, nous sachions qu'il est avec nous et que de fait, nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui. Mais il faut se rendre compte jusqu'où ça pourrait aller. Vous savez comment je me suis aperçu que Saint Marc ne disait rien? Je vous dis ça pour terminer sur un truc drôle, enfin drôle, que moi je trouve drôle. Dans mon ancienne paroisse à Saint-Antoine, il y avait une communauté portugaise assez importante. Et il n'y avait plus de prêtres portugais ou brésiliens pour célébrer la messe. Alors ils sont tombés sur moi. Et moi je ne parlais pas un mot de portugais. Alors ils ont commencé à m'apprendre un peu, mais enfin moi je ne parlais pas portugais. Alors je pouvais dire quelques formules de la messe, ce n'était pas trop difficile. Mais lire un évangile, portugais, ce n'est pas facile. Hein. Alors je prenais un fidèle, je me mettais à côté de lui et c'est lui qui lisait. Oui, mais pas pour la passion. Pour les rameaux, ah mon père, pour les rameaux, vous devez lire votre partie c'est Jésus. Ah, mais je dis, ça va être difficile, allez, il faut le faire. J'ai dit, oui, je vais le faire. Ben, c'était pas compliqué parce que c'était l'année Saint-Marc, et dans Saint-Marc, Jésus ne dit rien. Et donc j'ai tenu le rôle de Jésus, je n'avais rien à dire. Et la seule chose que dit Jésus, c'est Eli, Eli, lama sabachthani, c'est de l'hébreu, ça je sais le parler, mais pas le portugais.